Journal de bord du capitaine. Jour 1. Ça y est, nous y sommes. L'espace. Lieu de mystère et de fantasmes. Infinité nocturne, cosmos, étendue, telle une tortue. Depuis que nous avons volé la fusée d'Elon Musk, alors qu'il fumait des joints dans un podcast concurrent, nous avons réussi à sortir de l'atmosphère terrestre. Nous nous dirigeons maintenant sur la planète Orgasma, où le Glovox spatial a été aperçu par le satellite Hubble. Maître Quentin me harcèle de questions pour bifurquer vers Mars, où il aurait aperçu des activités sismiques très intenses. Mais ce n'est pas sur notre route. 10 130, quant à lui, s'occupe de Kuta, à qui il a fabriqué un petit combinaison. Un petit combinaison de cosmonautes. C'est le plus long voyage de l'humanité que nous nous apprêtons à faire. Et pour nous occuper pendant ce voyage long, nous avons décidé d'enregistrer une émission de Glovox pour pouvoir parler avec nos auditeurs de tout ce que nous savons sur l'espace.
Tout, vous saurez tout sur l'espace.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode de ce nouvel épisode de Glovox. Bonsoir 10130.
Bonsoir.
Bonsoir Maître Quentin. Ah mince, il a pas son micro.
Bonsoir.
Comment voilà. Allez-vous messieurs?
Mais très bien.
Ça va.
Alors c'est exceptionnel parce que c'est la première fois qu'un épisode de Glovox est aussi peu préparé. Nous n'avons jamais préparé aussi peu un épisode de Glovox. On a été trop occupés quand même d'aller voler la fusée d'Elon Musk. Ça a été compliqué. Mais voilà, nous sommes là. Hein. On n'a pas finalement beaucoup d'informations à vous apporter. Mais on va quand même essayer de réaliser un podcast un petit peu fou sur l'espace. Voilà. Alors de quoi on va parler, messieurs, ce soir, finalement ?
De l'espace.
Un sujet vague.
Non, mais il y a plein de choses à dire.
Bien
bon.
Sûr. Mais déjà, ouais. C'est très beau. On peut, enfin, je sais pas, vous pouvez peut-être voir sur Twitch, vous qui avez la vidéo, on voit bien la courbe de la Terre. Là, on vient à peine de sortir de l'atmosphère. Vous voyez la courbe de la Terre et on voit qu'effectivement, elle est plutôt en forme de donut.
Non, mais c'est une des plus grandes craintes qu'on avait et c'est vrai.
C'est vrai. Elle est en forme de donut. Voilà, ce soir aussi. Attends, putain, c'est trop fort le son. Je suis pas sûr. Je pense que tout est dégueulasse. C'est pas très grave.
On est parti là ?
Ouais, moi j'ai commencé le podcast, ça y est. Hein.
Non, mais c'est ce que je comprends. C'est pour ça que je ne dis plus rien depuis tout à l'heure. Parce que je sens que je n'ai tellement rien à dire.
Mais non, mais c'est merveilleux.
C'est incroyable.
Quel enfer.
Again.
Bon, voilà. Ce podcast, donc. Alors, à la musique, évidemment, nous avons Quentin. Qui exceptionnellement a ramené son synthétiseur de l'espace pour pouvoir faire la bande son de cette émission. Bon, l'espace, qu'est-ce que ça vous inspire? On va commencer par toi, 10130. Qu'est-ce que ça t'inspire de manière générale? Là, le fait de savoir que tu vas dans l'espace, que tu vas t'engager dans cet infini, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as une sorte de vertige qui te prend? Qu'est-ce qui se passe là tout de suite en toi?
Non, mais moi, honnêtement, j'aime bien la Terre, en fait. Je ne vois pas pourquoi vous m'avez embarqué dans cette histoire.
Mais parce qu'il faut trouver le Glovox, bien
parce
entendu.
Parce que l'espace, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. En fait, l'espace, c'est l'humilité, je pense.
D'accord. Tu penses que ça nous renvoie à notre propre
Ah ouais, c'est
petitesse.
Clair, mais pour tout le monde, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes fascinées par l'espace, qui adorent l'astronomie et que depuis des siècles, les gens l'étudient sur tous les continents. C'est que dès que tu regardes dans le vide et tu dis « Oula, je suis pas prêt ». Donc l'espace, ça me fait me dire « Je suis vraiment pas prêt ». Et ça se justifie ce soir parce que clairement
nous ne sommes pas prêts.
Ce genre de moment où tu regardes les étoiles dans un champ comme ça.
Ouais, carrément.
Tu te dis « Putain ».
Ça vous arrive assez régulièrement encore de regarder les étoiles dans un champ?
Non, parce que nous sommes des bobos dégueulasses, des grandes villes, des métropoles. Nous sommes anti-gilets jaunes.
Direct
comme
ça?
Ah non, mais calme-toi, on est anti-gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? On s'est prononcé pour l'indépendance du Québec dans le dernier épisode, et là, maintenant, on est contre les gilets jaunes. C'est pas possible.
Ouais, c'est un peu
C'est pas cohérent, 10130.
Non, mais sinon, on peut ne pas faire un podcast traditionnel et en profiter pour faire, comment dire, une FAQ. Envoyez-nous vos questions sur Twitch. Parce que c'est le début de la saison, là, parce que c'est ce qu'on n'a pas rappelé. C'est le début de la saison, on a décidé de partir dans l'espace. On refait le bilan, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que Glovok va devenir. Envoyez-nous vos questions, du coup. Qu'est-ce que tu fais comme étude?
Ah ouais, carrément. Non, mais moi, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être qu'on a perdu notre connexion avec l'espace en tant qu'humanité. Parce qu'effectivement, il y a une époque où on pouvait regarder dans l'espace et on pouvait se perdre un petit peu dans les étoiles. Maintenant, est-ce qu'on continue de le faire? Et j'ai l'impression que la réponse est non.
Mais
j'ai
non.
L'impression que nous vivons dans des villes où il y a tellement de lumière sur Terre qu'on n'arrive plus à voir la lumière qu'il y a au-delà dans le ciel.
Waouh.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que tu vas faire? Le monde. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Ce qui est bien quand on va dans l'espace, justement, c'est de se rappeler que tout le monde n'est pas dans les grandes villes. Il y a toujours des gens dans la misère un peu partout sur Terre. Ouh là là, c'est triste la vie. Mais...
D'accord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui continuent d'avoir accès à des étoiles, quoi. Si nous, on est dans un contexte particulier, c'est que non seulement on n'a pas accès à des étoiles, mais on a tout le temps accès à des films sur les étoiles. On est à peu près au courant du fait que la Terre est, entre guillemets, ronde. Ce genre de choses, pour beaucoup de gens sur Terre, j'ai quand même l'impression que c'est toujours...
Parce qu'en fait, je pense, la difficulté à laquelle on se heurte avec ce podcast, c'est qu'on n'est pas un podcast scientifique, en fait.
Ah bah non.
Je sais pas si vous avez remarqué.
Justement.
On n'est pas un podcast scientifique. Et du coup, parler de l'espace sans utiliser la science, et bah c'est compliqué. Parce qu'on s'est tellement habitué à dire « Ah, les trous noirs, il faut parler de physique quantique, relativité restreinte et tout. » On ne s'autorise plus à penser l'espace de façon purement imaginaire. Et du coup, c'est un peu triste. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec ce podcast. Ça y est, on a trouvé un thème. Essayer de redonner un imaginaire à l'espace.
Notre ressenti, ouais.
Alors, notre ressenti...
Si.
Retrouver, voilà. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'espace?
Oh, putain. Ça, c'est dans la cantina, ça.
Tu veux que je baisse?
Non,
je veux
que tu montes le son, en fait.
Bon, super, hein.
Bon, du coup, tu nous as lancé sur un truc, donc ça m'intéresse. Mais sur la question de l'imaginaire, justement. Je sais que quand j'étais gamin, maintenant c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un grand imaginaire. Quand j'étais gamin, je m'imaginais, parce que justement je lisais des trucs dégueulasses à la science et vie et tout, j'étais tout à fond. Et à chaque fois, ils expliquaient qu'il y avait encore sur Terre, je sais pas, 90% des animaux qui n'étaient pas découverts, ou en tout cas dans les. Sous l'eau. Et je m'imaginais que tous les dessins animés dont j'étais fan, en fait, ils existaient vraiment quelque part, et que juste ces animaux-là, ils avaient leur propre vie, mais qu'ils étaient cachés quelque part dans la fosse des Mariannes ou des trucs comme ça. Est-ce que vous aviez des choses comme
dans
ça?
Dans la fosse des Mariannes. En gros, qu'ils avaient une planète quelque part où ils existaient, tous les dessins animés,
c'est ça.
Comme dans Pokémon.
Exactement.
Ah, d'accord.
Ou quelque part sous l'eau, sur Terre, mais on ne peut jamais les voir. Un peu comme Toy Story, mais. mais que tout Toy Story existe, que c'est pas juste Toy Story qui existe, qu'il y a aussi Dragon Ball Z qui existe quelque part, qu'il y a aussi des Pokémon qui existent quelque part, mais c'est juste.
Les Digimon aussi.
C'est ça, un peu le monde de Narnia.
On était tous fans des Digimon. Ouais,
sûr.
En fait, je me rends compte que je m'en foutais un peu de l'espace finalement.
Mais oui,
j'étais un peu, je m'en foutais en fait, vite fait.
Moi, tu veux savoir ce qui m'a le plus traumatisé dans Star Wars?
Ben non.
La plus grande révélation que j'ai eue quand j'ai appris qu'il pouvait pas y avoir de son dans l'espace et que tous les combats spatiaux. Mettez Star Wars sans son. Ça n'a pas la même saveur du tout.
Faudrait faire un Star Wars réaliste où il n'y a jamais de son. Et du coup, il n'y a pas de musique parce qu'il n'y a pas d'orchestre non plus dans l'espace.
Tu vois qu'il y a un orchestre qui vole, qui suit constamment les noms. Calmons-nous. Et là, depuis que Stephen Hawking il est mort, terrible. Hein.
Ah, tu penses que c'est la mort de Stephen Hawking qui, a...
qui est arrivé à ce moment-là?
Non, mais entre la conférence d'Alexandre Astier, tous ces youtubeurs et tout, c'est à la mode.
Ouais, c'est vrai que ça marche pas mal. Ouais.
C'est vraiment à la mode. Faut être... Maintenant, les gens sont trop sérieux sur l'espace.
Ouais, les gens sont tellement fous le premier degré. Oui. Tout le monde veut aller sur Mars et tout. Moi, Mars, typiquement, c'est vraiment une bonne idée. Est-ce qu'on peut pas laisser les gens là où ils sont, sur leur planète? Est-ce on leur balance nos robots dégueulasses, ils nous ont pas demandé notre avis.
Ouais,
moi, je serais un martien, je viendrais nous bombarder, tu vois. Parce que ça suffit maintenant.
On a quand même appelé notre premier robot Curiosity, tu vois, c'est un peu cute, quoi.
Ouais, mais ouais, c'est mignon. Maintenant. Ouais. Maintenant, c'est Insight, c'est Philae.
On aurait dû l'appeler Colonisator directement.
Ça aurait été clair.
Qu'est-ce que vous enverriez dans l'espace si vous étiez pété de thunes? Si vous deviez envoyer un truc à part vous-même dans l'espace, vous enverriez quoi?
Kunta, comme ça il arrêtera de me faire.
Les Russes l'ont déjà fait.
Mais je vois pas le but en fait d'envoyer un truc dans l'espace. Parce que tu l'envoies, tu le vois plus, c'est fini.
Mais ouais, mais évidemment, mais tu vois, l'espace, c'est la frontière ultime. C'est ce que tu lances dans l'espace, c'est ce que tu envoies à la face du cosmos tout entier, si tu veux, d'une certaine manière. Alors, on peut le voir de deux façons différentes, genre quelque chose dont on voudrait se débarrasser. Par exemple, moi, dans l'espace, j'enverrais la guerre et la haine. Comme ça, ben, on n'en aurait plus ici.
Donc toi, t'envoies des concepts.
Des concepts dans l'espace.
Non, mais ça peut être aussi envoyer un truc.
L'extraterrestre tombe dessus en plus de tes concepts.
Et la paf, il tombe sur la. le peuple extraterrestre, il connaît pas la guerre et la haine. Et la paf, ils ouvrent la boîte à chaussures.
La boîte de Pandore.
Et se déploient la guerre et la haine chez eux.
Non, mais justement,
super.
Tu envoies quelque chose. Toi, c'est pour t'en débarrasser, mais tu peux envoyer quelque chose aussi dans l'espoir que ce soit retrouvé.
Bah oui, bien sûr.
Moi, j'enverrais mon numéro de tel direct.
Ah ouais, tu voudrais pécho quelqu'un.
Ah non, mais t'imagines, t'as un ovni qui t'appelle un jour. Oui, vous m'avez envoyé un numéro, machin.
J'ai trouvé votre numéro, ça m'intéresse beaucoup.
Allez, on s'ajoute sur LinkedIn, on se met bien.
Est-ce que les extraterrestres ont des réseaux sociaux? Vraie question d'Anglevoc aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y a un LinkedIn des cosmonautes, tu vois? Est-ce qu'ils ont un réseau social privilégié pour eux, pour parler de leurs interventions, de leurs sorties extravéhiculaires? Est-ce qu'ils postent des photos, un Instagram, tu sais, de sorties extravéhiculaires où ils mettent des trucs?
À mon avis, c'est les seuls qui sont toujours sur les forums de futurascience.com, en fait.
Putain, bonne idée, ça. Futurascience.com, l'espace. Allons voir des discussions sur Futurascience. Alors, mais c'est une émission qui est à l'image de l'espace, du Big Bang, si tu veux. Tout, on part de rien et là d'un coup c'est tout.
Tout se merveilleux. Ouais, c'est vrai.
Alors visiblement, il existe des amas globulaires dénués de vie dans l'espace.
Oh, oh,
et ça, c'est exceptionnel.
Comme dans Mars Attack.
Comment ça?
Ils sont un peu, c'est un peu un amas globulaire.
Mais oui, mais ils sont pas dénués de vie, les amas globulaires de Mars Attack.
Mais comment ça, dénués de vie?
Mais je sais pas. C'est le titre d'un
sujet. Il paraît qu'il y a des rochers dans l'espace.
Alors, c'est un
dénués de vie. Il y a de la poussière lunaire.
Mais non, mais c'est
dénués de vie.
C'est des amas globulaires. Alors, je vous lis le message de Cancerman, qui a publié son message le 14 août 2018.
Allez, on y va.
Alors, bonjour, je suis tombé sur des publications scientifiques très intéressantes. Il y a un lien vers un PDF. L'amas globulaire Oméga Centauri serait inhabitable et cela aurait inévitablement des conséquences pour les autres, non, les autres amas et potentiellement la vie extraterrestre. Bonne lecture cordialement. Voilà, merci à tous. Je ne comprends pas ta métaphore du verre à moitié vide et plein. Explique-toi alors en des termes plus constructifs. 0,16 années-lumière environ sépare chaque naine rouge. Chaque million d'années, ces étoiles se perturbent, ce qui a pour effet de faire sortir leur planète de leur orbite. Je ne vois pas où sont les points positifs pour ces amas en particulier. Mais bon, si tu vois les verts, peut-être de ton côté, lol. Évidemment, chaque amas est différent. Les points de rencontre peuvent être plus faibles que d'autres amas, mais bon, c'est pas bon signe pour autant. Ça, c'est encore une réponse de Cancerman.
Du coup, j'ai une question.
Oui.
C'est quoi votre planète du système solaire préférée?
Notre planète du système solaire préférée.
Moi, j'aime beaucoup Vénus, parce qu'elle est toute bleue. Ouais. C'est ça, elle est un peu vaporeuse, tu vois.
Vaporeuse.
Elle a pas de, tu sais, c'est une ouais. planète.
Elle
gazeuse.
Est un peu timide aussi. C'est pas, elle parle pas souvent en soirée.
Non mais, mais tu vois, c'est, je trouve, vu que c'est une planète gazeuse, ouais. elle a pas de vraie bordure. Tu vois, quand tu la ouais. vois, elle est en dégradé continuellement.
Ouais. Elle c'est a pas de, elle est pas limitée en fait.
Ouais.
Elle est.
C'est une boule de gaz.
Ouais. Non mais elle est pas limitée. Elle s'évapore continuellement en fait.
On va où avec ce truc ?
Bon alors on parle, mais avec tout ça, on finit par se rapprocher de l'ISS. Hein. Donc vous voyez.
Ah, oh, regardez, c'est l'ISS.
Alors regardez dans vos écouteurs, hein, sur votre droite. Vous avez l'ISS qui va être interprété par Quentin très rapidement. C'était donc l'hymne de l'espace par John Cage. Merci à tous d'avoir écouté ce concert.
Et la niche fiscale de l'espace.
Alors oui, 10130, tu avais des choses à nous dire sur le Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui, non mais le Luxembourg, j'ai beaucoup de choses à dire dessus.
Ah là là. Mais alors pourquoi ? Un peu d'éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses à dire sur le Luxembourg par rapport à l'espace ? Parce qu'évidemment, c'est quand même le thème de l'émission. Et oui.
Oui, alors, ce qui se passe, c'est que le Luxembourg est l'un des plus petits pays d'Europe, bien sûr, mais d'accord. aussi l'un des plus riches par tête. Et comme ils savent, paradis fiscal, tout ça, oui. Jean-Claude Juncker. Et ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils préparent leur avenir. Parce que comme c'est un petit pays qui s'est fait beaucoup d'argent sur les transactions financières et tout ça, ouais. ils peuvent se permettre de faire des investissements et de capitaliser sur des trucs. Donc, ils préparent leur avenir. En faisant énormément de lobbying, évidemment, mais aussi en créant en développant le space mining, en fait. Ils se sont donné pour objectif, sur les années à venir, de devenir l'un des premiers pays exploitants des matières premières dans l'espace.
Ils D'accord.
commencent par ouvrir les possibilités à un certain nombre de leurs compatriotes de pouvoir acheter des licences pour exploiter dans l'espace.
D'accord.
Et là, récemment, en fait, il y a eu les investissements spatiaux du Luxembourg, quand même. C'est 2% du PIB total du pays. Je ne sais pas si vous vous en rendez
Mais compte. Mais surtout que c'est un gros PIB, le Luxembourg, du
Mais
coup.
Mais c'est un PIB assez énorme par ouais. habitant. Je crois Mais qu'ils doivent être dans les premiers au monde de pays par PIB par habitant.
Oui, mais en absolu, parce que relativement, oui. Mais en absolu, est-ce que c'est un haut PIB ? Je ne sais pas. Je peut-être que.
Bah non, parce que ils produisent que dalle, le Luxembourg.
Mais c'est ça, en fait.
Ils produisaient de l'acier à la base.
Ah bon ?
Mais oui, ils ont produit énormément d'acier pour le développement des.
1930 s'avère être un expert du Luxembourg. Mais oui. toute l'histoire
on
du Luxembourg.
On le découvre.
Non mais c'est un pays qui est assez fascinant. C'est justement le Grand-Duché du Luxembourg. Ils produisaient de l'acier pour les grands travaux qui ont été faits sur les chemins de fer, des trucs comme ça.
D'accord.
Le Luxembourg était bien placé.
C'est D'accord.
comme ça qu'ils se sont fait leur.
C'est comme ça qu'ils sont devenus un paradis fiscal, c'est en faisant des chemins de fer.
Ah, tu parles d'un paradis, putain, Luxembourg, au secours. Quoi.
Mais attention, tu sais que leurs polis sont quand même des Tesla S. Hein.
Ah, ça déconne zéro. Hein.
Ouais, bon, ils ont quand même de l'argent pour faire ça.
Mais c'est bien à Dubaï aussi, où ils sont en Lambeau et tout, les flics.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ils se mettent bien. Putain, ouais, nous, on a des Renault Kangoo.
Ouais. Franchement, gilet jaune.
C'est vrai qu'ils ont des Kangoo.
Mais ah ouais, il fut un temps, ils avaient des. Ouais, avaient bah des si, mais ils ont carrément
mais
des.
Ouais, des Kangoo. C'est toujours des Kangoo peintes. Ils ont juste peint des Kangoo pour faire genre on est la police, mais vous n'êtes pas crédible. C'est normal que du coup les mecs de banlieue les caillassent. Hein. Enfin, je ferais pareil.
Hein. Kangoo, je
tu caillasses pas une Lambeau.
Les mecs de banlieue, franchement.
Ah, pardon. Non, c'est vrai que là j'ai été un peu stigmatisant. Les gilets jaunes aussi. Donc à la base, c'était les Américains contre les Russes, et là maintenant, c'est le Luxembourg tout seul.
Contre le Liechtenstein.
Oui,
contre
et la Chine aussi, quand même.
À la Chine, elle investit dans des trucs aussi. Je sais pas, hein, moi je suis pas au courant. Tout. Moi je vous dis, l'espace, c'est un sujet qui m'intéresse pas du tout. Donc du coup.
Mais non, mais moi ça m'intéresse quand on me l'explique, quand quelqu'un s'y connaît. Ouais. Mais quand t'es comme un con, tu vois.
Non, tu... Mais oui, mais c'est pour ça que nous, voilà, on n'explique pas l'espace. Nous, on l'admire. On le regarde d'en bas, tu vois, avec nos petits yeux de d'êtres humains.
Moi, il y avait une image que j'avais adorée. C'est. Ouais. Enfin, une image. Un imaginaire, justement, de l'espace. Ça se faisait donc, justement. À l'époque grecque,
ouais.
Enfin, les Grecs antiques,
ouais.
Où ils pensaient que, tu sais, tous les jours, tu avais un dieu qui venait, qui apportait le soleil,
ouais.
Machin, qui l'emmenait de l'autre côté le soir, pour qu'un autre dieu tire un grand drap noir pour créer la nuit. Et à force de tirer ce grand drap noir, ça l'a usé. Du coup, il y avait des trous dans ce drap, et on voyait le jour à travers le drap, et en fait, c'est les étoiles. Ça, c'est assez beau, tu vois.
Ok.
Mais nous, on est tellement terre à terre, tellement machin.
Mais c'est vrai.
Que, voilà, Star Wars, tout ça. Mais. C'est
d'accord,
beau.
Mais ça, c'est vrai que c'est joli. Je connaissais pas du tout ça, cette histoire. Mais c'est un vrai truc. Enfin, c'est...
Ah oui, 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 true fact, ouais. Parce que, non, mais imagine, t'es un grec antique, tu vois.
Ouais. T'es convaincu.
La nuit tombe, t'es convaincu qu'il y a un putain de dieu
qui a tiré un drap par-dessus, ouais. Et qu'à force il y a des trous dedans, tu vois, des trous de clope, des trous de joint.
Ouais, c'est ça, des gros trous de pilon, mon gars. Parce que les dieux ils se mettent bien. Mais je trouve ça beau en fait, comme les tribus qui pensaient que la terre était sur le dos d'une tortue.
C'est vrai que ça, c'est une cosmogonie qui existe, mais il y en a plein des cosmogonies très très bizarres. Il y avait, bon là c'est encore autre chose, mais c'était les dans la mythologie nordique et scandinave, il y avait cette idée en fait qu'il y avait deux loups qui couraient en permanence l'un après l'autre.
Ah.
Et autour de la Terre, parce qu'ils savaient que la Terre était ronde, les mecs n'étaient pas cons, ils étaient au courant, eux, les païens nordiques, que la Terre était ronde, et qu'il y avait deux loups qui se couraient après, je ne me souviens plus exactement des noms des loups, et que, au-dessus d'eux...
Grishka.
Non. D'accord.
Salut, c'est Igor.
Et du coup, il y avait ces deux loups qui se couraient après et qui voulaient se bouffer l'un l'autre en permanence, et ils étaient suivis par deux astres, du coup, qui étaient dans le ciel, et que c'est à cause de ça... que c'est à cause de deux loups qui se courent après depuis la nuit des temps que le ciel et la lune, il y a un loup qui a le ciel accroché à lui et un autre qui a la lune, et c'est comme ça que la lune et le ciel que la lune et le soleil se déplacent, c'est les loups qui tournent autour de la Terre et qui les tirent avec eux comme ça.
OK.
Voilà.
Mais ils partaient quand même du principe où la Terre était au centre de l'univers et tout tournait autour.
Ah bah bien sûr, évidemment. Ah bah oui, non mais ils savaient déjà que la Terre était ronde, c'est pas si mal, tu vois, ça va.
Mais d'ailleurs, c'est marrant. Ce truc
non, pas du tout, ça veut rien dire, mec.
La cosmogonie, si. Parce que du coup, la cosmogonie étant l'interprétation de l'origine sur Terre.
Parle un peu plus près de ton micro, s'il te plaît.
La cosmogonie, La cosmogonie étant l'interprétation de l'origine de la vie ou des êtres humains sur Terre, c'est quand même fascinant que ce soit toujours un peu lié à la question du ciel ou de l'espace, qu'il y a toujours un peu un côté Dieu descend du ciel, ou Dieu est dans le ciel, ou les astres sont représentés par Dieu. En fait. Dès le début, on a toujours vu l'espace a toujours été le siège de Dieu, en fait, d'une manière ou d'une autre. Le truc inaccessible, mais toujours là, que tu n'atteindras jamais. C'est assez fun.
Oui, et là maintenant, non mais c'est pas fun.
Non, oui, mais
on n'est pas obligé de rire tout le temps dans cette émission non plus. On peut aussi. T'allais dire un truc, Quentin ?
Non, j'allais dire que forcément, quand t'as aucune notion scientifique, comment tu veux expliquer une immense boule de lumière hyper ronde dans le ciel ? Comment tu veux expliquer que y a un autre astre qui arrive la nuit ? Comment tu veux expliquer les étoiles ? Comment tu veux expliquer ça ? Donc ils trouvaient des solutions, les mecs, avec ce qu'ils avaient sous la main. Des loups.
Des loups et des avec le ce qu'on connaît en fait ici-bas.
C'est toujours c'est ça qui est hyper
mal fonctionné par analogie, ouais.
Voilà. Moi j'aurais préféré vivre dans un monde comme ça, clairement. Où on te fait croire des trucs de dingue, machin, parce que là c'est tellement terre à terre,
bah
gravité.
Mais oui, on reprend. Mais et en fait, les dieux ont été détrônés par. C'est classique.
Stephen Hawking.
Stephen Hawking et Alexandre Astier, finalement.
C'est dur pour lui.
Mais non, mais c'est un peu bateau de dire ça. Mais c'est vrai que maintenant, on a la seule cosmogonie qu'on a, c'est toujours des théories scientifiques. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire un podcast sur l'espace, parce que
c'est
on est obligé d'être des scientifiques pour le faire.
Et on est clairement pas des scientifiques.
Ouais.
Ah bon. Mais, moi j'ai fait maths pu.
Mais tout comme on n'est pas on parle des pays.
Je suis volcanologue moi.
Non, bah,
c'est vrai que tu es volcanologue à la base t'es volcanologue.
Mais le but de Maynam, ça je l'ai expliqué.
Ça oui ça on est.
J'avoue qu'avec tous ces doctorats j'arrive pas à expliquer l'espace, je me sens mal.
Et ouais. Impossible d'expliquer l'espace.
Tu as pas suivi.
Mais en fait c'est Parce qu'on peut comprendre les autres cultures en se faisant un imaginaire, en imaginant des trucs. Ça me fait l'épisode sur le Kyrgyzstan, c'était rigolo. Bon, toi, je sais pas si tu l'avais écouté, toi, Maître
Quentin. Si, bien sûr que je l'ai écouté.
Ouais.
J'ai pas été invité, mais je l'ai écouté.
Oui, mais t'étais pas là. Mais l'épisode sur le Kyrgyzstan, c'était, il y avait juste une histoire de mariage où on s'imaginait, voilà, et on avait une sorte de, en racontant une histoire, on arrivait à avoir une idée de ce que c'était la culture kirghize et à quoi pouvait ressembler le Glovok kirghize. Là, face à l'espace, on a l'impression quand on va arriver sur Orgasma, on va juste trouver un Glovok fait de chiffres ou de. En fait, c'est peut-être un amas globuleux sans vie, si tu veux. On ne sait pas.
Le nombre d'Avogadro qui attend depuis le début.
Voilà, l'espace a été démythifié. Et c'est pour ça que ce Glovok, cet épisode de Glovok, est un peu triste parce que nous qui sommes dans le mythe tout le temps, nous qui sommes toujours dans le mythe, et ben on va là pour une fois dans un lieu qui a été démythifié pendant des siècles et des siècles. Et on se retrouve là et on est. Et c'est triste.
Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. En fait, je trouve que l'espace, c'est hyper triste. Parce que tu sais, quand on te dit, oui, l'espace est infini, l'espace n'a pas de centre, c'est une tristesse que tu bades.
Ouais, c'est horrible.
Mais tu es...
Il n'y a aucun équilibre, du coup, c'est le chaos, mais...
L'espace n'a pas d'amoureux, vous vous rendez compte? C'est trop triste.
Mais oui, et nous, on
est
mieux.
Dans sa solitude, grande et tout, personne ne la visite. Puis il y a les connards d'humains sur Terre, là, qui, de temps en temps, la font rire un peu. Mais bon, ça ne paie pas de mine par rapport à l'immensité qu'elle représente.
Mais est-ce que vous croyez que dans l'univers, il y a aussi une autre grande civilisation comme la nôtre qui existe?
Bah dans l'univers, c'est grand l'univers quand même. Hein.
Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment? Parce que si on part du principe où l'univers est infini, on part du principe que tout est possible. Genre, il y a vraiment Star Wars dans l'univers. Il y a un coin
mais
de
moi,
l'univers
où
il y a Luke Skywalker vraiment. Mais s'il est infini, tout est possible.
S'il est infini, tout est possible.
Ouais, mais tout est
possible. Il y a Futurama dans l'univers, mec.
Mais non, parce qu'en fait, justement, le problème avec l'univers et la manière dont il est décrit scientifiquement, c'est que on ne peut pas croire en fait en quelque chose. On ne peut pas croire que les extraterrestres existent. Il nous faut des preuves pour qu'on puisse y croire, parce que justement, on ne fonctionne plus sur des mythes. Sinon, on pourrait juste faire comme ça deviendrait une religion comme une autre en fait à ce niveau-là.
Ouais.
De penser que les dieux sont quelque part sur Terre. Donc, tant qu'on n'a pas vu une autre civilisation ou qu'elles ne nous ont pas contactés, si on est vraiment. Si on est dans le référentiel spatial scientifique de base, ben non, les extraterrestres n'existent pas. Ils ne peuvent pas exister avant de nous avoir contactés. Et
oui,
une
c'est
fois
dire,
qu'ils
ouais.
nous auront contactés, alors là, tout le monde y croira, alors là, ça aura du sens. Mais pour l'instant.
Mais donc. théoriquement, tout le monde, je pense qu'à peu près tout le monde est capable d'admettre que théoriquement, les extraterrestres existent d'une certaine manière.
C'est logique.
Forcément, quelque part ailleurs, il y a les conditions qui sont réunies pour que la vie existe.
Ouais, mais c'est ça, les conditions sont peut-être là, mais on n'a pas de preuves. En fait.
Ah, ça, on n'a
que
non,
des théories sur le sujet. En plus, il parle de grandes civilisations. Bon, qu'il y ait des bactéries qui se sont frottées à 2-3 pierres dans l'espace et qui se baladent depuis des millénaires, pourquoi pas. Mais une grande civilisation. Un truc aussi stylé que l'humain, un truc qui a inventé l'iPhone, qui a inventé le Coca-Cola, un truc qui se branle littéralement pour prendre du plaisir.
Oui, qui se masturbe quelque part.
Tout ça, ou
un extraterrestre. Là, tout de suite, pendant qu'on est en train de parler, quelque part, un extraterrestre se masturbe.
C'est fou ça.
Un amas globuleux sans vie se branle quelque part.
Et pas que les humains, justement, parce que à chaque fois, on revient aux humains, mais tout, quoi. Des petits oiseaux avec plein de couleurs qui flottent le matin, comme ça, littéralement dans l'air. C'est incroyable.
Oui, bien sûr.
Mais ça, on n'a pas encore de...
Mais alors,
de
c'est ça, finalement. Le nouveau mythe de l'espace, maintenant, c'est les extraterrestres. C'est plus les étoiles. C'est la vie, en fait.
Oui. Mais ça
Et encore une fois, par mimétisme, du coup. C'est toujours des extraterrestres qui nous ressemblent.
Toujours
de l'analogie.
Mais de toute façon, ça a toujours été les extraterrestres. Regarde, dans les années 50-60, avec les trucs de série B et tout...
Ouais, mais c'est très proche déjà de nous, les années 50-60. Tu vois.
Ah, mais toi, tu parles de genre Copernic
bah,
et tout.
Non, mais non, toi, tu parlais des Grecs tout à l'heure et de l'imaginaire grec, tu vois. Peut-être que l'imaginaire du monde contemporain,
Mais
c'est les extraterrestres.
Les
c'est
dieux.
Ça, l'imaginaire de l'espace.
Les dieux, est-ce que c'était pas un peu des extraterrestres?
Bah, c'est un peu l'idée, en vrai.
Bah, ouais. Les dieux grecs, c'était un peu des extraterrestres, en fait.
Bah, dans l'univers de Marvel, par exemple, les dieux sont littéralement sur d'autres planètes.
Bah,
Thor, Harry Potter,
bah, oui.
Ils vont se balader d'espace en espace pour se tabasser avec Hulk, c'est marrant. Mais c'est ça le nouvel imaginaire contemporain sur les extraterrestres. Mais j'ai du mal à croire que, quoique, peut-être qu'il n'y a pas de grande civilisation sur Terre, mais il y a forcément un Jeff Goldblum quelque part.
Un Jeff Goldblum Pourquoi un Jeff Goldblum?
Mais parce que justement, dans Thor Ragnarok, ce qui était stylé, c'était juste d'aller sur une planète et d'avoir Jeff Goldblum étant Jeff Goldblum, toujours stylé.
Mais j'ai pas la ref.
Ben moi non plus.
Ah ouais, mais
merci à tous les auditeurs qui l'auront.
Internet à la ref pour le coup. Vous voyez pas qui c'est Jeff
Goldblum? Si, Jeff Goldblum, c'est le mec de Jurassic Park.
Mais oui, il est trop stylé. Tout
et
le
de
temps.
La mouche.
Il est trop marrant. Il a une tête marrante. Il est tout
Oui, il est marrant. Mais du coup, je vois pas son
c'est
rôle.
C'est un peu le nouveau Chuck Norris en fait.
Carrément.
Un peu, minimum.
Oula,
on a un problème technique.
On a un petit problème technique là dans le vaisseau.
Ah, on va tous mourir.
Oula,
oh là.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh là là, je suis en panique. Je suis en panique.
Non, moi je crois savoir ce que c'est.
Tu penses?
Ça doit être le joint de culasse du Glover Drive. Attends, je vais aller
voir ça. OK, tu peux aller voir. Ouais, merci, c'est gentil.
Oh
putain, mais quel bordel, mais attends.
Maître de l'axe, on va tous mourir.
Attends, non mais calme-toi. Calme-toi, David 130. Tout va bien se passer. Non mais Quentin, allez voir, ça va aller, attends.
Non, c'est pas très grave, ça va.
Ok, attends, mais c'est quoi là devant nous, 10130?
Mais attends.
Pourquoi c'est bloqué? L'autoroute spatiale est bloquée, qu'est-ce qui se passe?
Macron démission.
Attendez, Macron démission.
C'est les jaunes de l'espace.
Attendez, on a...
Bonjour.
Ah, on nous contacte par radio, 10130. T'entends?
Allô?
Oui, allô?
Allô, vous m'entendez?
Oui, allô?
Bonjour, monsieur!
Oui, bonjour!
Macron démission!
Pardon, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur?
Ouais, Jean-Luc Guichard, bonjour!
Jean-Luc Guichard!
Voilà, nous, on est en train de bloquer le périphérique de Vénus, là, monsieur!
D'accord, mais on peut pas du tout accéder là-bas, alors, à Vénus!
Attendez, monsieur, nous, on a des vertus politiques, hein. On a des convictions! Mais c'est que... simple, nous... Attendez, je comprends pas, monsieur. On voudrait juste passer,
s'il vous plaît.
Allô, allô.
C'est monsieur, mais font pas...
Macron démission, monsieur.
Pourquoi vos vaisseaux spatiaux sont jaunes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On comprend pas, là. Quelles sont vos revendications, monsieur?
Écoutez, monsieur, c'est simple. Moi, à partir de là, qu'est-ce que je comprends? Moi, tous les jours...
Allez-y, on comprend pas, monsieur.
À partir de là, monsieur, moi je fais 2 années-lumière tous les matins.
D'accord.
Moi je prends le périph de Vénus. Moi je crame deux pleins d'hyperdrive. Je fais comment, moi? Je fais comment?
Mais je comprends, monsieur, mais c'est pas notre problème.
Le
mais
plein, oui, il est monté.
Nous, on est l'hyper classe mondialisée. On est des docteurs de l'OMS.
Le.
Quoi?
Le plein, il est monté à 2 bitcoins, monsieur.
Non, mais d'accord.
2 bitcoins, tu fais comment, moi, monsieur?
Non, mais je comprends bien, monsieur.
Moi j'ai une famille, hein.
Mais non, c'est mais pas notre problème. Mais cassez-vous.
Qu'est-ce que vous faites?
Non, vous rigolez, c'est simple. Vous allez rester bloqué là, moi je vous le dis, monsieur.
Mais non,
là, on fait quoi, nous? On fait quoi?
Non, mais
on bloque.
Tiens, mais vous faites comme tout le monde, vous trouvez un travail.
Tiens, Sylvie,
attendez.
Sylvie, les saucisses, tu les retournes, s'il te plaît.
Putain.
Retourne les saucisses, Sylvie.
Putain, mais c'est la même merde partout. Même ici.
Allô,
quoi.
Allô, monsieur,
oui,
monsieur.
Allô.
Écoutez, c'est pas compliqué. Moi, à partir de là, vous mettez le gilet jaune sur le tableau bord du vaisseau, moi je vous laisse passer, monsieur.
D'accord.
Ah non, on va pas.
Monsieur. On veut du soutien, monsieur.
On va pas se faire bolosser par des ploucs de l'espace et tout. Non.
Comment,
monsieur,
c'est pas compliqué.
Vous nous laissez passer, sinon j'appelle la police. Là-bas.
Dans les allô. Étoiles.
Allô.
Ça a coupé, je crois, monsieur.
Ouais, écoutez.
Oui, on passe dans un tunnel spatial.
C'est pas compliqué, monsieur, c'est pas compliqué. Vous mettez le gilet jaune sur le cockpit.
Mais vas-y.
On vous laisse passer. Sylvie, putain, Sylvie, tu fais cramer les saucisses. Arrête de faire chier. Allô, messieurs.
Oui, allô.
Vous mettez le gilet jaune sur le cockpit. C'est pas compliqué. On veut du soutien.
Nous, on n'a pas de gilet jaune. On a que des gilets orange.
Vous allez dans les soutes derrière, vous avez forcément un gilet jaune et un triangle, monsieur.
Quentin,
non, mais si, c'est obligatoire.
Monsieur,
à partir
mais pourquoi
de là, moi,
non, ne rappelle pas, il s'occupe du problème
mais
technique.
Mais c'est pour savoir si justement il a des gilets jaunes dans la soute.
Ah.
Attends, je regarde.
Allô, monsieur.
Oui, allô.
Vous mettez le gilet jaune.
On a compris, c'est bon, arrêtez de répéter toute la même chose, vous êtes chiant, monsieur. Vous êtes chiant, je vous déteste.
On a des revendications, monsieur.
Comme nous, qui sommes des gens importants.
Oh là là. Allô. Allô.
Allô.
Ça a coupé, monsieur.
Allô.
C'est bon, ça va partir.
Ah. Attends, ok. Est-ce que tu peux...
Vous forcez pas le barrage, monsieur.
Allez,
nous, on a la police
parti.
Avec
Quentin,
nous.
Quentin, envoie tout. Envoie tout. C'est parti. Allez.
Là, on compose l'hymne.
Mais en direct.
Attends, je cherche des sons.
Tu nous trouves quatre accords, tu vois. Bon alors, de retour sur Glovok, on s'est trouvé un objectif. Parce que tout à l'heure, en fait, avant de commencer cette émission difficile, on a un petit peu cherché ce qu'on pouvait faire. Une émission qui va être courte, hein, probablement. On a cherché ce qu'on pouvait faire et on a essayé de trouver le drapeau de la Terre pour faire la vexillologie, mais le drapeau de la Terre, il est nu à chier, donc on n'a pas fait.
Dégueulasse.
Et on s'est demandé s'il existait un hymne de la Terre aussi. Enfin, un hymne de l'espace, pardon. Un drapeau de l'espace et un hymne de l'espace. Et visiblement, il n'en existe pas. Et donc, en exclusivité, pour ce podcast, nous allons tenter ensemble de créer l'hymne officiel de l'espace, validé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et c'est Quentin et nous deux, évidemment, hein, qui allons nous charger de cet incroyable moment. Voilà. Servez-vous un verre, messieurs, parce que je vois que vos verres sont vides, là. Hein. Je ne veux pas être le seul à... Voilà. Parce que là... Oh, 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 oh. C'est pas mal ça.
Ce genre d'accord, ça te va?
Ouais, j'aime bien.
C'est pas un accord, c'est...
Allez, c'est parti, on est chaud.
Toi l'espace, tu es tellement grand. Toi l'espace, tu es tellement dark. Toi l'espace, tu es tellement vide. Toi l'espace, on te déteste. Toi l'espace,
c'est trop le bordel.
Toi l'espace,
t'as du cérumen.
Toi l'espace,
t'as pas de personnalité.
Toi l'espace,
t'es qu'une grosse merde.
Toi l'espace, tu es tellement grand. Toi l'espace, tu es tellement dark. Toi l'espace, tu es tellement vide. Toi l'espace, on te déteste. Toi l'espace,
t'as pas de route du rhum.
Toi l'espace,
tu vas goûter à ma voie lactée.
Toi l'espace,
t'as même pas de CRS.
Toi l'espace,
t'es cabolos.
Toi l'espace, tu es tellement grand. Toi l'espace, tu es tellement dark. Toi l'espace, tu es tellement vide. Toi l'espace, on te déteste. Toi l'espace,
tu connais pas le pognon.
Toi l'espace,
t'as pas de code Netflix.
Toi l'espace,
tu pues du trou noir.
Toi l'espace,
tu sers à rien.
Toi l'espace, tu es tellement grand. Toi l'espace, tu es tellement dark. Toi l'espace, tu es tellement vide. Toi l'espace, on te déteste. Toi l'espace, tu es tellement dark. Toi l'espace, tu es tellement vide. Toi l'espace, tu es de droite.
L'espace, le clash de l'espace sursaturé. Vous allez ne plus en pouvoir avec vos oreilles, chers auditeurs. C'est un moment merveilleux qu'on vient de vivre tous ensemble. Bravo, wow. Messieurs.
Bravo.
Une très belle improvisation, une très belle chanson.
Bravo,
un podcast de qualité.
On est toi, podcast, on te déteste. Tout seul.
Bon. C'était super.
Hola.
C'était. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite nappe musicale, Quentin, pour qu'on puisse. Mais un truc tranquille, hein, pour qu'on se détende après ce
bien
moment
sûr.
Un petit peu vénère. C'était donc le Clash de l'espace, qui est aussi maintenant l'hymne officiel de l'espace, produit par Glovok. On se rapproche maintenant doucement de la fin de ce podcast. On se rapproche également de la planète Orgasma, où se retrouverait le Glovok de l'espace. Mais ce podcast me fait beaucoup réfléchir sur beaucoup de choses, sur comment est-ce qu'on arrive dans
faire
le monde. Non, on arrive dans le monde et on a l'impression d'avoir rien à dire. On a l'impression d'être rien du tout, à moins que rien. Et finalement, avec des amis, avec un synthétiseur. Et avec beaucoup d'alcool, là finalement on arrive, on se rend compte qu'on a quelque chose à dire au monde, que personne d'autre ne peut dire, qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, toujours.
C'est ça le secret de la vie finalement, les amis, le synthé et l'alcool.
Et puis, voilà, on a essayé de refaire un imaginaire de l'espace. On a essayé de le mettre en valeur, comme le prouve notre dernière chanson. On a essayé de rendre ce moment beau pour vous, un podcast un peu plus décousu que d'habitude. J'ai du mal à me rendre compte à quoi il va ressembler, finalement, ce podcast. Si seulement il est publié, on ne sait pas. Mais c'était un beau moment qu'on a vécu tous ensemble. Alors que notre vaisseau a passé la ceinture des gilets jaunes et qu'il se rapproche maintenant vers la planète Orgasma, nous nous apprêtons à vous saluer, à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Glovok, à vous donner tout l'amour qu'on a, qu'on peut vous donner. On vous invite évidemment à aller dans les champs pour regarder le ciel de temps en temps, essayer de sortir de la ville, de faire remonter les dieux au ciel. On vous aime. À bientôt pour un prochain épisode de Glovok.
Salut.
La fin de la déprime. La fin de la déprime, le Glovok déprimant. Mais je sais pas, c'est la musique de Quentin qui m'inspire. Allez, salut.
OAS, c'est l'action secrète.
Mal de fort que ça aura une injurie.
L'injurie.
J'ai tout cassé.
C'est vous toucher à tous mes dom-toms. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, c'est pas.